VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 12 mai 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Arnold Benson. Pour commencer, les titres.
En Côte d'Ivoire, les 8400 mutins qui avaient ébranlé le pays en janvier ont annoncé qu'ils mettaient un terme définitif à leur mouvement.
En République centrafricaine, le casque bleu marocain porté disparu a été retrouvé mort 3 jours après l'attaque d'un convoi de la MINUSCA.
À Londres, signature d'un pacte de sécurité entre le gouvernement somalien et ses partenaires internationaux pour vaincre les Chebabs.
L'adjoint de James Comey, le directeur limogé du FBI, rassure le Congrès sur l'indépendance de l'enquête sur les ingérences présumées de la Russie dans la présidentielle américaine de 2016.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Les 8400 mutins qui avaient ébranlé la Côte d'Ivoire en janvier ont annoncé qu'ils mettaient un terme définitif à leur mouvement devant le président Alassane Ouattara lors d'une cérémonie diffusée jeudi soir à la télévision nationale. Précision de Jean-Roger Bion.
Nous renonçons définitivement à toute revendication d'ordre financier. Nous prenons l'engagement solennel de nous ranger et de nous mettre aux ordres de la République, a affirmé un porte-parole des mutins présenté comme le sergent Fofana selon les images diffusées. Organisé sans la présence de la presse et diffusé en différé après montage, l'événement se voulait visiblement un point final au mouvement de protestation de l'ensemble des forces de sécurité. Le président Ouattara a affirmé croire à la sincérité de leurs paroles et s'est dit certain qu'ils seront désormais des militaires exemplaires. Ces mutins, qui réclamaient surtout 12 millions de francs CFA de primes, avaient obtenu le versement dès janvier de 5 millions de francs CFA et devaient toucher le reste de la somme à partir de ce mois de mai d'après l'AFP. Le gouvernement a lui toujours refusé de divulguer le contenu des négociations et le montant des primes promises. Le relatif succès des mutins avait fait tache d'huile dans toutes les forces de sécurité et même dans l'administration, tout en choquant beaucoup d'Ivoiriens, dont une grande partie vit dans la pauvreté.
Un cinquième casque bleu a été retrouvé mort en Centrafrique. L'annonce de l'ONU intervient 3 jours après l'attaque d'un de ses convois par un groupe armé dans le sud-est, près de Bangassou. Morgane Guériec nous en dit plus.
Le casque bleu marocain qui avait été porté disparu a été trouvé mort, indiquent les Nations Unies. Il a été tué dans l'échange de coups de feu. 4 soldats cambodgiens ont également été tués dans cette attaque la plus meurtrière contre la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. 3 d'entre eux avaient été appréhendés par les assaillants, puis sauvagement assassinés. La MINUSCA attribue ses hostilités à un groupe anti-Balaka et affirme que 8 assaillants ont été tués. Par ailleurs, des combats entre anti-Balaka et une faction de l'ex-Séléka, l'Union pour la paix en Centrafrique, ont fait plusieurs morts parmi les civils ces derniers jours à Alindao, dans le centre du pays. Ces affrontements, mardi, ont fait 37 morts et de nombreux blessés, d'après un bilan de la Croix-Rouge centrafricaine cité par l'AFP, qui évoque également 3000 déplacés.
À Brazzaville, les autorités congolaises ont lancé hier une opération de lutte contre de jeunes délinquants communément appelés les bébés noirs. Claire Morin-Gibourg.
L'opération a été officiellement lancée au commissariat central de la Tsiémé, un quartier nord de Brazzaville, mais elle concerne l'ensemble de la capitale. Selon le procureur de la République, André Ngakala Oko, l'objectif est d'éradiquer le phénomène des bébés noirs, autrement dit, toute forme de délinquance juvénile. Nous allons combattre par tous les moyens de droit et mettre hors d'état de nuire les bébés noirs et leurs complices, a averti M. Ngakala Oko, qui a dirigé la première patrouille mixte impliquant des gendarmes et des policiers dans plusieurs quartiers nord de Brazzaville. Les autorités n'ont pas communiqué le nombre d'agents impliqués dans cette opération. Les bébés noirs sont pour la plupart des jeunes adolescents drogués qui opèrent avec des armes blanches de jour comme de nuit à Brazzaville.
Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est très inquiet du blocage politique en Guinée-Bissau, a exhorté hier le président José Mario Vaz à nommer un nouveau premier ministre qui jouit d'un large soutien politique conformément à l'accord de Conakry. Dans un communiqué adopté à l'unanimité après une réunion à huis clos, le Conseil a dit être prêt à prendre les mesures nécessaires pour répondre à la détérioration de la situation en Guinée-Bissau. La crise y persiste depuis que le président José Mario Vaz a limogé en août 2015 M. Domingos Ximoes Pereira, chef du PAIGC, le parti au pouvoir auquel appartient aussi M. Vaz.
Le gouvernement somalien et ses partenaires internationaux ont signé hier un pacte de sécurité présenté comme une feuille de route pour la création d'une armée nationale capable de lutter contre le groupe islamiste Al-Shabaab. Il s'agit là de la principale retombée de la conférence internationale sur la Somalie hier à Londres. Jacques Aristide.
Le pacte, un document de 17 pages publié à la fin du sommet, fait suite à l'accord conclu en avril dernier entre le gouvernement central somalien et les différents États du pays visant à unifier leurs forces disparates en une armée et une police nationale. Pour le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, ce pacte témoigne du soutien vital de la communauté internationale pour relever l'important défi sécuritaire en Somalie. Confrontés à la puissance de feu des troupes de l'Union africaine à Missom, les Chebab ont été chassés de Mogadiscio et ont perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils continuent de perpétrer des attentats à travers le pays et ont menacé de mener une guerre sans merci contre le nouveau président Mohamed Abdou Hali Mohamed. Pour sa part, à cette conférence londonienne, l'ONU a demandé 1,5 milliard de dollars au lieu de seulement 900 millions pour mieux permettre aux agences humanitaires d'aider les Somaliens au bord de la famine en raison de la grave sécheresse qui sévit dans le pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le président Donald Trump a admis hier qu'il avait demandé à trois reprises à James Comey, le directeur du FBI, qu'il vient de limoger, s'il était lui-même, M. Trump, visé par une enquête. Il s'agit là d'une intervention qui pourrait être interprétée comme une tentative d'ingérence indue ou d'intimidation dans le cadre des enquêtes sur une ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Dans la même interview avec la chaîne NBC, le président a souligné que pour lui, ce truc avec la Russie, Trump et la Russie, c'est une histoire inventée. Il a aussi qualifié M. Comey de hâbleur et de fanfaron.
Et deux jours après le limogeage de James Comey, son adjoint qui assure l'intérim à la tête du FBI a rassuré le Congrès sur l'indépendance de l'enquête sur les ingérences présumées de la Russie durant la campagne électorale américaine de 2016. La polémique sur le renvoi de M. Comey est loin de baisser d'intensité, Abdourahmane Dia.
Andrew McCabe a indiqué lors d'une audition hier devant une commission du Sénat que le travail des hommes et des femmes du FBI continuerait quels que soient les changements de circonstances, quelles que soient les décisions. On ne peut pas empêcher le FBI de faire ce qu'il faut, protéger les Américains et défendre la Constitution, a-t-il dit. M. McCabe a même promis de prévenir le Congrès en cas de tentative du pouvoir d'intervenir dans l'enquête alors que la Maison-Blanche appelle les médias à tourner la page. Cette audition était la première apparition en public d'Andrew McCabe, qui a pris temporairement la direction du FBI en attendant la nomination et la confirmation d'un successeur à M. Comey. La minorité démocrate au Congrès réclame la nomination d'un procureur spécial pour superviser l'enquête, une proposition qui n'est pour le moment pas soutenue par les Républicains.
Retour sur les photos gênantes publiées par le Kremlin à la suite d'une rencontre à huis clos hier mercredi entre le président Donald Trump et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. L'administration américaine se trouve de nouveau dans l'embarras, John Linden.
Ces clichés montrent Donald Trump souriant en train de serrer la main de Sergueï Lavrov et de l'ambassadeur russe à Washington, Sergueï Kislyak. La rencontre a eu lieu mercredi dans le prestigieux bureau ovale d'ordinaire réservé au chef d'État. Le tapis rouge a été déroulé. La Maison-Blanche avait été informée qu'un photographe officiel russe serait présent pour des archives qui n'avaient pas vocation à être diffusées immédiatement. Peu après le limogeage du patron du FBI, James Comey, la présence dans le bureau ovale de M. Kislyak n'a fait qu'augmenter le malaise. Ses contacts avec des proches de M. Trump ont suscité des soupçons de collusion. Michael Flynn a été contraint de démissionner mi-février de son poste de directeur à la Sécurité nationale pour n'avoir pas révélé ses échanges avec l'ambassadeur russe. Actuellement, trois enquêtes au Congrès et au FBI sont en cours sur une ingérence présumée de Moscou dans la dernière élection américaine.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco.
Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont progressé de 16,8%, atteignant près de 39 milliards de dollars au premier trimestre 2017. Une progression exceptionnelle, la plus importante hausse trimestrielle depuis 2015. Cette performance s'explique par un accroissement de 48% des importations en provenance d'Afrique et une augmentation de 64% des investissements directs non financiers de la Chine sur le continent. Djibouti, le Sénégal et l'Afrique du Sud ont connu une hausse de plus de 100% des IDE chinois sur cette période. Au Burkina, la start-up Fasoso a créé un savon permettant de lutter contre le paludisme. Utilisable pour le corps et la lessive, il permet de lutter contre la malaria grâce à son odeur repoussant les moustiques. Le savon sera proposé au même prix qu'un savon classique, nettement moins coûteux qu'un traitement anti-malaria. Dès sa création, le projet Fasoso a remporté le grand prix de la Global Social Venture Competition de l'Université Berkeley aux États-Unis et l'OMS pourrait bientôt homologuer ce savon anti-palu. En Égypte, le canal de Suez a rapporté près de 854 millions de dollars au cours des mois de mars et avril 2017. Ce résultat représente une hausse de 4,1% par rapport aux revenus obtenus sur la même période en 2016. Le canal de Suez, le chemin le plus rapide entre l'Europe et l'Asie, est l'une des principales entrées d'argent de l'Égypte, mais ses rendements sont inférieurs aux attentes du gouvernement.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Manchester United défiera l'Ajax d'Amsterdam en finale de la Ligue Europa.
Et oui, ce sera l'affiche de cette finale. Alors qu'il lui fallait remonter 3 buts, l'Olympique lyonnais n'a pas réussi son pari hier soir au Parc OL. Malgré une victoire 3-1 contre l'Ajax d'Amsterdam, les Lyonnais s'arrêtent donc en demi-finale. Les Néerlandais qui affronteront en finale Manchester United, vainqueur à Vigo lors de la demi-finale 1-0. Les Anglais ont souffert au retour hier soir à Old Trafford. Match nul, 1-1 pour les hommes de Jose Mourinho qui seront donc opposés à l'Ajax d'Amsterdam en finale.
Cyclisme autour du Bénin, le Burkinabé Bachirou Monéan remporte la 2e étape.
Oui, l'étape de Dassazoumé Boïkon, longue de 80 km, a permis aux Burkinabés de montrer encore plus leur suprématie. Une nouvelle fois, c'est un étalon Bachirou Monéan qui s'impose en solitaire à l'issue de cette 2e étape. Les précisions sur place avec Élisée Ongpatine.
Une nouvelle fois, et c'est un Burkinabé qui s'impose lors d'une étape de ce tour du Bénin. Cette fois, la 2e étape, et c'est Bassirou Monéan qui remporte l'étape en solitaire devant l'Ivoirien Abou Sanogo et un autre Burkinabé, Abdoul Aziz Nikiema. Ce dernier endosse du coup le maillot jaune. Le cycliste burkinabé parle de victoire d'équipe.
Bon, on est très content puisque vous voyez que le maillot jaune, c'est toujours dans les bras du Burkina Faso. Donc, l'objectif, c'est qu'une Burkinabé gagne le maillot jaune. Donc, je pense que ça a fait. Hier, c'était Mathias, aujourd'hui, c'est moi. Et pourquoi pas demain encore changer. Mais c'est comme ça, il suffit seulement qu'on garde le maillot jaune jusqu'à la fin.
Le dernier vainqueur de ce tour du Bénin, Mathias Sorogo, n'aura qu'une seule étape pour garder le maillot jaune. La prochaine étape, la 3e, promet, et ce sera donc entre Boïkon et Ouida, d'une distance de 115 km. Élisée Rumpatin, Boïkon, VOA Afrique.
Le Suédois Ibrahimovic, très loin de la retraite, selon son chirurgien.
Oui, le footballeur suédois de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, est dans une telle condition physique à 35 ans qu'il a encore de nombreuses années d'activité devant lui. C'est ce qu'a affirmé hier au South China Morning Post le chirurgien qui l'a opéré. Après une déchirure des ligaments croisés fin avril en quart de finale retour d'Europa League contre Anderlecht, Ibrahimovic avait été opéré début mai à Pittsburgh par ce chirurgien qui a l'habitude des sportifs de haut niveau. Et puis Drissa, avec vous, les résultats de la NBA. Cette nuit, le championnat de basket nord-américain. La suite de la demi-finale de conférence Ouest entre Houston et San Antonio.
San Antonio, pourtant privé de son meilleur marqueur, Kawhi Leonard, et de son meneur Tony Parker, s'est qualifié jeudi pour la finale de la conférence Ouest en écrasant Houston 114 à 75 dans sa salle. Les Spurs ont remporté la série 4 victoires à 2 et seront opposés à partir de dimanche aux Golden State Warriors, grands favoris pour le titre 2017.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, dans le camp des réfugiés centrafricains d'Amboko, département de la Niapende, les jeunes prennent eux-mêmes des initiatives pour faire face à leur quotidien. À l'aide de leur groupe électrogène, ils distribuent de l'électricité dans le camp. André Kodmajingar est allé à la rencontre de ces jeunes. Son reportage.
Yunus Hassan et Saleh Debrim, deux jeunes mariés, âgés respectivement de 31 et 28 ans, ne croisent pas les bras pour attendre l'assistance alimentaire des acteurs humanitaires. Installés au camp depuis 2003, ils ont une idée géniale de distribuer de l'électricité pour permettre aux autres d'exercer les activités génératrices de revenus. Les boutiquiers, les gérants des cabines téléphoniques, des salons de coiffure et des ciné-clubs se frottent les mains. Saleh Djibril explique les raisons qui l'ont poussé à redonner sourire à ses compatriotes.
J'ai acheté ce moteur pour travailler ça personnellement. Mais comme il y a beaucoup de dépenses, je n'arrive même pas à trouver de bons bénéfices. C'est pour cela que j'ai trouvé l'idée pour distribuer tout ça. Par mois, les boutiquiers la payent 3000 francs. Les cabines téléphoniques payent 1250 par jour. Comme il y a beaucoup de difficultés, il y en a qui amènent 750, il y en a qui donnent 1000 francs, comme ça seulement. Mais au quartier, là, j'ai interdit ça. Comme il y a beaucoup d'enfants, c'est pour cela que j'ai peur.
Si par mesure de sécurité, Saleh Djibril refuse de fournir de l'électricité dans les ménages, Yunus Hassan, lui, distribue à plus de 2000 ménages de 18h à 23h. Quelques boutiquiers et gérants des salons de coiffure apprécient à sa juste valeur l'initiative de ces jeunes.
C'est bon, parce que l'idée qu'il avait là, vraiment, ça c'est l'honneur de notre camp d'Amboko. Il a fait un effort et nous aussi. On a prêt pour lui aider avec un peu l'argent pour consommer avec les gazons. Il y a le frigo et j'ai pris 4 ampoules comme ça, 25 000. Par mois. Ici, il n'y a pas d'électricité, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on trouve même 500 000 francs de bénéfices, il n'y a pas de problème. Si tous les jeunes, c'est comme lui, là, vraiment, ça va nous aider.
On a un peu de problème sur les couronnes. Les ampoules, les charges de batterie, là, ça fait, mais comme les frigos, le ventilateur, là, n'a pas de force. Pour la lumière, là, ça va.
J'ai ouvert un salon de coiffure, donc je dois prendre le courant avec lui aussi. Et le prix qu'on paye le courant avec, c'est 750 par jour. Je peux trouver 2000 et ça varie aussi. Il n'y a pas d'autres activités, là. Je peux débrouiller comme ça. Même si ça ne marche même pas, je peux continuer et puis c'est tout.
Cette activité rapporte aux initiateurs environ 130 000 à 150 000 francs CFA par mois. Tout en évoquant les difficultés rencontrées dans les camps, Saleh Djibril n'est pas prêt à repartir chez lui en Centrafrique.
Ici aussi, c'est difficile, mais de retourner là-bas, là, moi, j'ai peur. Parce que là-bas, j'ai vu beaucoup de choses qui ne me plaisent pas. Il y a des gens et vraiment, je n'arrive même pas à expliquer.
André Kodmajingar Gore dans la Niapende pour VOA Afrique.
Au Gabon, c'est le 25 mai qu'aura lieu la clôture du dialogue national ouvert le 28 mars et qui devait prendre fin le 10 de ce mois. Les participants estiment qu'ils ont besoin de plus de temps pour s'accorder sur des questions essentielles telles que la réforme des institutions et le redécoupage électoral. Solange Niamoulissa a joint René Nemesso Obiang, président de Démocratie Nouvelle, coprésident de la délégation de l'opposition au dialogue.
Au moment où nous parlons, je ne peux pas vous dire sur quel point nous sommes tombés d'accord ou sur quel point nous ne sommes pas tombés d'accord, parce que le principe du déroulement du dialogue, c'est que ce sont des discussions à huis clos. Et nous ne voulons pas que par un affichage de position à l'extérieur, les positions de chacune des parties viennent à se cristalliser, à se braquer, alors que nous sommes en pleine discussion. Tout ce que je peux dire, c'est que sur toutes les thématiques du dialogue, vous savez que le dialogue se déroule dans quatre grandes commissions, les discussions se poursuivent, qu'il y a des nombreux sujets qui nécessitent des discussions très longues. Voilà pourquoi cela prend beaucoup de temps.
Et pourquoi le dialogue a été prolongé de 15 jours?
Il a été prolongé de 15 jours précisément parce que les questions sont sérieuses et donc si on ne veut pas les escamoter, elles nécessitent des discussions de fond. Ces discussions de fond qui se prolongent sur la plupart des questions nécessitent qu'on prenne un peu plus de temps. Voilà pourquoi de manière responsable et de manière consensuelle, les délégués de l'opposition et de la majorité sont tombés d'accord sur une prolongation de 15 jours supplémentaires pour ne pas bâcler les questions et aller au fond des questions.
Est-ce que ce qui sortira de ces dialogues aura un effet sur les législatives ?
Naturellement, ça aura un effet global, non seulement sur les législatives, mais j'espère bien sur l'ensemble de la marche du pays. Cela aura un effet sur les législatives en ce sens d'abord que l'une des questions discutées au cours de ce dialogue national porte sur le redécoupage électoral. Il est donc possible qu'à l'issue de ce dialogue, on ait des circonscriptions électorales dont la configuration n'est pas exactement celle qu'elle était avant ce dialogue. Il n'est pas impossible non plus que par rapport aux sièges députés, il y en ait quelques-uns de supplémentaires. C'est une possibilité. Deuxièmement, nécessairement, ça va prendre du temps, la mise en œuvre de toutes les réformes qui vont être décidées au dialogue. Ça va prendre du temps et ce temps fait en sorte qu'il est inenvisageable d'aller aux élections sans que toutes les réformes aient été mises en œuvre, notamment les modifications qui touchent au code électoral et un certain nombre de dispositions concernant l'organisation des élections. Ce qui fait que naturellement, ça va amener à un décalage dans l'organisation des élections législatives qui était initialement prévue au mois de juillet et qui à l'évidence ne pourront pas se dérouler à cette date-là, mais à une date que le dialogue va proposer en fonction de tout ce qu'il y aura comme travail à faire en termes de réforme.
René Nemesso Obiang, président de Démocratie Nouvelle, coprésident de la délégation de l'opposition au dialogue au Gabon. Le Niger, le Mali et le Tchad ont signé un accord de coopération judiciaire. Ils entendent lutter non seulement contre le terrorisme, mais aussi contre le crime organisé, le trafic de drogue, la traite des personnes et le trafic d'armes. Comme nous vous le disions hier, c'est une mesure historique qui abolit les frontières juridiques et judiciaires entre les trois pays. Et c'est ce qu'a déclaré Ahmad Mahamat Hassan, ministre tchadien de la Justice, joint par Morgane Guiriac.
Entre le Tchad, le Mali et le Niger, il n'y a plus de frontières en matière juridique et judiciaire. Ça ne couvre pas seulement les questions du terrorisme, mais également toutes les autres infractions d'ordre pénal, mais également commerciales et civiles. Donc cet accord de coopération permettant à nos magistrats et à nos officiers de police judiciaire de pouvoir poursuivre toute forme d'infraction criminelle et autres, ça va faciliter les échanges en matière de recherche et d'enquête judiciaire entre les trois États. Les trafics de la criminalité transfrontalière, mais également le terrorisme qui infeste la sous-région du Sahel, nous pose un problème, pas seulement de gestion militaire comme nous le faisons en mettant nos forces de défense et de sécurité ensemble, mais également la question de la prévention en matière de recherche judiciaire, de faciliter les enquêtes, les poursuites et les qualifications des infractions et la recherche des délinquants dans le cadre des échanges des documents, les mandats d'arrêt, les mandats de recherche et les commissions rogatoires.
Qu'est-ce qui va changer avec ce texte?
Les magistrats tchadiens, les magistrats maliens et les magistrats nigériens n'auront plus à avoir une imposition des procédures diplomatiques lourdes, passant par les ministères des Affaires étrangères et autres. Les magistrats eux-mêmes, d'une manière directe, pourraient s'échanger les délinquants à tout moment, de part et d'autre des frontières. C'est cette facilité qui va nous aider dans la poursuite et la lutte efficace d'une manière juridique et judiciaire légale contre le crime du terrorisme.
La lutte contre le terrorisme par des moyens juridiques.
Exactement, c'est le moyen juridique, mais vous savez que les frontières et les questions de souveraineté nous causaient des blocages inutiles si ces frontières sont respectables du point de vue politique. Mais en matière judiciaire, il ne faudrait pas qu'il y ait ces entraves qui annulent les efforts en matière de lutte efficace contre le terrorisme.
Les pays concernés sont le Niger, le Mali et le Tchad. Alors pourquoi pas d'autres pays qui sont également affectés par le terrorisme, tels que le Burkina Faso par exemple?
Il y a le Burkina que vous venez de citer, mais il y a également le Cameroun qui est d'une autre tradition juridique, notamment celle du Commonwealth. Donc il y a beaucoup d'États qui pourraient nous rejoindre. La vitalité de cet accord convaincra les autres à nous rejoindre pour qu'on puisse constituer une même famille juridique et judiciaire.
Ahmad Mahamat Hassan, ministre tchadien de la Justice.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Ici à Washington, le président Donald Trump a justifié le limogeage du directeur du FBI James Comey en affirmant que sa décision n'avait aucun lien avec l'enquête de la police fédérale sur une éventuelle collusion entre sa campagne électorale et la Russie en 2016. Mais sa déclaration n'a pas affaibli la tempête politique ici à Washington depuis l'annonce de ce renvoi spectaculaire. Les détracteurs du président américain, dont les démocrates, exigent la nomination d'un procureur spécial pour enquêter sur les allégations de possibles liens entre Moscou et des membres de l'équipe de campagne de M. Trump. Les derniers développements avec Jacques Aristide.
À la Maison-Blanche, hier, après sa rencontre avec l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, le président Trump a été interrogé sur sa décision de licencier le patron du FBI.
Monsieur le Président, pourquoi avez-vous limogé James Comey ?
Parce qu'il ne faisait pas du bon travail. C'est très simple. Il ne faisait pas du bon travail.
Dans sa lettre à James Comey, le président Trump écrit avoir agi en fonction des recommandations des hauts responsables du ministère de la Justice, préoccupé par la façon dont il a géré l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton l'an dernier. Le limogeage surprise de James Comey a entraîné des manifestations devant la Maison-Blanche et provoqué un tsunami politique dans le pays. Les démocrates du Congrès réclament que le ministre adjoint de la Justice, Rod Rosenstein, nomme dès maintenant un procureur indépendant pour diriger les investigations sur de présumées interférences russes et une éventuelle coordination entre Moscou et des proches de M. Trump durant la dernière campagne présidentielle américaine. Le chef de file de l'opposition démocrate du Sénat, Chuck Schumer.
S'il croit comme moi que le peuple américain mérite d'avoir confiance en l'impartialité de cette enquête, il doit nommer un procureur spécial et faire sortir de cette enquête des mains du FBI et surtout de bien l'éloigner de la présente administration.
La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a rejeté les accusations des démocrates selon lesquelles le limogeage visait à mettre aux oubliettes l'enquête sur la Russie.
Il n'y a aucune preuve de collusion entre l'équipe de campagne de M. Trump et la Russie. Et en fait, nous aimerions que cette enquête soit bouclée afin que nous puissions tous passer à autre chose.
Certains républicains ont également exprimé leur inquiétude face au renvoi de James Comey et à son impact sur l'enquête du FBI. Mais le leader de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, qui s'oppose à la nomination d'un procureur spécial, a déclaré que les démocrates n'arrêtaient pas de critiquer les agissements de M. Comey lors de l'enquête impliquant Mme Clinton pendant la campagne présidentielle.
Nos collègues démocrates osent se plaindre du limogeage de ce même directeur du FBI, surtout tiré à boulet rouge à maintes reprises et à vive voix.
La décision de M. Trump soulève beaucoup d'interrogations qui toutefois prendront du temps pour éclaircir. Le président Trump a maintes fois rejeté les accusations de collusion avec la Russie, les qualifiant de canulars. Mais pour des observateurs, les derniers événements pourraient au bout du compte faire déclencher une enquête encore plus robuste sur les liens possibles entre Moscou et son équipe de campagne.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons des problèmes d'infertilité.
De nombreux couples ne parviennent pas à faire des enfants pour des raisons biologiques et médicales. Nous verrons pourquoi avec le docteur Ernestine Bell, gynécologue et fondatrice de la clinique Odyssée à Douala au Cameroun.
Pour aider ces couples, il existe en Afrique des cliniques d'assistance à la procréation. Nous verrons ce qui s'y passe avec le docteur Guy St. John, gynécologue obstétricien et fondateur de la clinique de l'aéroport à Douala, au Cameroun.
Cependant, il est encore difficile de résoudre durablement le problème de l'infertilité qui reste un tabou du point de vue social comme politique. De cela, nous en parlerons avec Doris Bonnet, anthropologue.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour la mise en onde et le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.